Et bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Diffusé tous les jours de 10h à 11h, du lundi au vendredi, les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés cette semaine par Christine Robert, avec Fabien Gosset, Alexandre James et Pascal Bresse à la technique, et préparé par Geneviève Méric, Jeanne-Marie Roux, Mathilde Unger, Avril Ventura, Adèle Van Rett. Suite ce mardi de la première des deux semaines que les nouveaux chemins de la connaissance consacreront à l'épreuve du bac philo. Une semaine qui est presque une tradition maintenant, puisque c'est la quatrième du genre au nouveau chemin, à ceci près qu'à la différence des années précédentes, vous pourrez entendre non seulement les professeurs, mais également dans une certaine mesure leurs élèves plancher sur les sujets du bac. Car cette semaine est offerte aux élèves, qu'ils soient en terminale, en première, en seconde ou même au collège. Car il n'y a pas d'âge pour se poser les bonnes questions et consentir à ne pas y répondre. Il n'y a pas d'âge pour pratiquer la philosophie, n'en déplaise à ceux qui l'ont cantonnée à l'année de terminale. Après Pierre Vignan, venu hier se poser pour vous la question de savoir si la politique doit faire le bonheur des citoyens, avant Patricia Lorca, qui se demandera demain s'il y a quelque chose que le langage ne puisse dire, rien de moins, c'est aujourd'hui Jean-Pierre Dramizino, professeur de philosophie en terminale L au lycée Robert Doisneau de Vaux-en-Velin, où nous nous trouvons maintenant. Donc, Jean-Pierre Dramizino qui va plancher pour vous sur la question de savoir si toutes les cultures se valent. Alors, toutes les cultures se valent-elles donc ? C'est une question que nous allons vous poser, Jean-Pierre Dramizino, mais d'abord, qu'on va poser à vos élèves. Bonjour Adèle Van Rett.
Bonjour Raphaël. Oui, alors on va commencer effectivement, comme hier déjà, à donner la parole à deux lycéennes qui sont avec nous autour de la table. Mais à la différence des étudiants qui étaient là hier, vous avez toutes les deux déjà traité ce sujet, donc vous savez, vous avez déjà des éléments de réflexion. Donc on va voir déjà si vous avez bonne mémoire et ensuite si la dissertation que vous avez vous-même écrite plaît toujours à votre professeur. Alors, autour de la table, donc Rohan Chibani et Zora Ghezouli. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors si on procède comme tout bon élève face à un tel sujet de dissertation, la première chose qu'on fait, c'est d'essayer de repérer les termes qui sont importants et d'essayer de proposer des définitions. Alors vous, l'une ou l'autre, quel est le terme que vous définiriez en premier et comment est-ce que vous le définiriez ?
Tout d'abord, en premier, on définirait le terme culture, qui est au centre de la question. Il est employé dans le sens anthropologique, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des représentations mentales, des habitudes, des coutumes, qui a un même groupe d'individus ou une civilisation partage. Ensuite, dans un deuxième temps...
On partirait sur plutôt le jugement de valeur qui est prise dans cette question.
Donc toutes les cultures se valent-elles ? Vous arrêteriez un moment sur le terme se valoir,
Valoir. Comment on peut prendre une culture et la mettre en parallèle avec une autre alors qu'elle est complètement différente ? Et comment on peut obtenir le droit de faire ce jugement de valeur alors qu'en fin de compte, il n'est pas vraiment...
Nécessaire,
ouais.
Et surtout, il est dangereux.
Ouais.
Et donc, ce serait ça, votre problématique ?
Oui.
Plus ou moins, oui.
Et à partir de là, est-ce que vous avez déjà une idée de plan ou d'argument pour dérouler cette pensée-là ?
Peut-être dans une première partie, se demander pourquoi il est dangereux de vouloir juger les cultures à cause de l'ethnocentrisme, par peur de mettre sa culture au centre. Deuxièmement, on pourrait répondre un peu en tension à ça, que la meilleure façon de pouvoir juger les valeurs, ce serait de relativiser toutes les cultures, d'essayer de les mettre au même niveau, sans aucun jugement. Et donc, pas de point de vue spécifique dessus.
Peut-être laisser les cultures aller d'elles-mêmes et ne pas les juger parce qu'on ne peut pas, je pense, avoir le droit de juger une autre culture sans la connaître. Et c'est peut-être ce qui se passe actuellement dans nos sociétés, c'est qu'on ne connaît pas assez les cultures et qu'on se permet de les juger.
Alors, à quel exemple est-ce que vous feriez appel pour illustrer cette idée ?
Ouais, on pensait, fait d'actualité... c'est les polémiques sur les minarets, les burkas, etc. Mm-hmm. Et on pensait au fait que, de nos jours, les politiques mettent justement une barrière aux cultures. Et on se demandait de quel droit ces politiques-là pourraient interférer dans la vie et de l'individu et dans sa personnalité, donc dans sa culture. Et donc, on se dit dans un pays laïque qui donne la liberté de culte, de culture, etc. Mais on met quand même des barrières aux personnes.
Professeur Dramasino, est-ce que vous êtes capable de faire aussi bien que vos élèves sur ce
Dramasino,
sujet?
Bonjour.
Dramasino, pardon.
C'est pas grave. Les réponses de mes élèves montrent que ce sujet a vraiment un double intérêt. Il a déjà l'intérêt de nous faire réfléchir à des choses qui sont tout à fait actuelles. Et deuxième chose, il permet de montrer qu'il faut se méfier parfois d'une sorte de relativisme ambiant qui ferait que finalement, on en resterait à l'idée que tout se vaut. Et en fait, ça aussi, c'est dangereux. Donc, elles ont raison de dire que l'ethnocentrisme est dangereux, mais le relativisme aussi peut l'être. Et donc, ce sujet est très intéressant pour les élèves parce qu'il permet de travailler sur des sortes de tics de pensée, une sorte de réflexe, une sorte de consensus mou sur lequel finalement on ne réfléchit pas assez.
D'autant, Jean-Pierre Dramasino, que le sentiment que toutes les cultures se valent est un sentiment lui-même ethnocentré. C'est-à-dire qu'il y a une certaine culture qui professe l'équivalence des cultures et qu'en un sens, dire que toutes les cultures se valent, c'est déjà faire, affirmer la supériorité sur les autres cultures d'une culture qui dirait que toutes les cultures se valent.
Alors, c'est vrai que c'est un reproche qu'on pourrait faire à une sorte de pensée universaliste, mais je pense que là, il faudrait complexifier, en fin de compte, la critique qu'on pourrait faire à l'égard du relativisme, ce que, justement, je me proposais de faire dans le cours de la dissertation. On pourrait déjà dire que, oui, c'est vrai que c'est l'affirmation d'une certaine culture, que toutes les cultures se valent, mais dire que toutes les cultures se valent, c'est considérer que cette affirmation-là est déjà universelle, en fait, sans que ce soit nécessairement l'affirmation d'une culture, mais il y a une contradiction logique déjà dans cette affirmation-là, en fait.
Alors, on va aller au cœur de ces difficultés. C'est un sujet passionnant. C'est un sujet passionnant et qui donne, alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le sentiment, bien souvent, les questions qu'on pose au bac, en terminale, sont des questions peut-être dont l'abstraction parfois décourage les élèves ou leur donne le sentiment qu'en somme, ils ne sont pas directement concernés par la question qu'on leur pose. En l'occurrence, un sujet comme celui-là est un sujet qui peut-être a moins de difficultés à susciter des réactions immédiates dans la mesure où c'est effectivement une question que tout un chacun, dans son parcours scolaire mais dans sa vie quotidienne, est amené explicitement et clairement et quotidiennement presque à se poser.
Oui, mais c'est justement à la fois l'intérêt et le risque. Puisque justement l'intérêt, c'est qu'on va avoir, on va être touché par le sujet, on a des choses à dire, on pense avoir déjà une option finalement, mais j'ai un peu peur que finalement les élèves n'arrivent pas à dépasser l'option relativiste. Et c'est justement ça le problème, c'est justement l'intérêt du sujet, c'est d'amener à questionner ça, puisque quand on dit toutes les cultures se valent-elles, finalement on nous amène à réfléchir sur l'idée selon laquelle elles pourraient toutes se valoir. Et donc aller plus loin que le simple relativisme.
Donc, de là l'importance, bon, d'abord, rhétorique de construire une problématique, et puis politique, hein, de construire une problématique là-dessus. Est-ce que dans les suggestions de vos élèves, dans la bouche desquelles on entend avec plaisir des mots comme anthropologie ou ethnocentrisme, tout ça en terminale, ce qui est quand même formidable, dans les propositions qui sont faites, est-ce qu'il ne manque pas peut-être une distinction à faire à l'intérieur même du mot de culture entre d'un côté l'idée de la culture particulière, c'est-à-dire c'est ma culture, c'est pas la tienne, on est dans des cultures différentes, et l'autre sens de culture qui serait le sens de civilisation, c'est-à-dire pour le coup non pas une culture qui nous rattacherait à une origine précise, mais qui au contraire nous détacherait de toute appartenance particulière pour nous tendre vers l'universel. Jean-Pierre Dramasino.
Et c'est justement là où le relativisme ambiant fait que justement on n'entend plus ce sens-là. On va entendre uniquement le sens ethnologique, mais on va avoir du mal à entendre le sens qu'on pourrait dire civilisationnel de la culture, c'est-à-dire cette idée que finalement la culture c'est aussi une ouverture à l'universel. Et il faudrait dépasser, finalement, nos particularités, nos particularismes qui parfois, finalement, nous enferment et nous empêchent vraiment d'entendre l'autre, puisque le tout se vaut, le toutes les cultures se valent, Est-ce que ce n'est pas finalement le masque d'une relative indifférence, en fait ?
Juste à l'entrée, on va aller vers la problématique, oui. Mais encore une question au liminaire. Juste à l'entrée du CDI, du lycée Robert Doisneau, où nous nous trouvons maintenant, hein, devant vos élèves, Jean-Pierre Remizineau, il y a une affiche avec marqué dessus « Oui aux différences, non à l'indifférence ». Est-ce qu'en un sens, ces deux affirmations simultanées ne sont pas contradictoires ? Dans la mesure où, si on dit oui aux différences, est-ce que l'acceptation des différences, la reconnaissance des différences, ne va pas de pair avec une certaine forme d'indifférence à l'endroit de la différence de l'autre ? En somme, une différence qu'on ne prétendrait pas résorber, qu'on laisse exister dans une certaine forme d'indifférence.
Bah, là est tout le problème, puisqu'en fin de compte, on va de charib en scylla, c'est-à-dire que soit on va finalement prôner un universalisme qui risque de se faire au détriment des particularités, et à l'inverse, n'affirmer que le particularisme est souvent le sien, finalement, eh bien, ça va se faire au détriment d'un universel et qui nous permettrait de partager quelque chose avec les autres, d'un certain vivre ensemble, quand bien même nous serions différents. Et donc là, cette affiche, elle nous amène justement à penser la nécessaire articulation entre les deux.
Comment est-ce que vous construisez une problématique autour de ce sujet-là ? En somme, problématique dont on va rappeler à chacune des émissions, hein, qu'elle est l'enjeu quasiment décisif, finalement, la ligne d'horizon de la dissertation et la question à laquelle il faut parvenir à répondre à la fin du devoir. Comment est-ce que vous la construisez et comment est-ce que vous la formuleriez, Jean-Pierre Remizineau ?
Alors, je pense que d'emblée, il faut saisir justement que ce sujet nous invite à réfléchir au relativisme. Et que ce qui finalement est en jeu dans cette question, c'est la place, ou en tout cas le fait... Elle nous invite à penser des valeurs universelles. Puisque, que ce soit l'ethnocentrique ou le relativiste, finalement, il y a une négation de l'universel. Et à terme, l'interdiction finalement de pouvoir vivre avec celui qui est différent. Donc finalement, la question qui se pose, c'est le nécessaire dépassement à la fois de l'ethnocentrisme et du relativisme, pour penser l'universel. Et c'est en cela que je dirais que ce sujet est assez difficile, en fait. Parce que mes élèves, finalement, l'ont montré, c'est-à-dire que d'emblée, on a envie d'aller du côté du relativisme, et c'est vrai que par rapport à l'ethnocentrisme, c'est ce qu'on doit préférer dans un premier temps. Mais il faut aller plus loin. Et c'est là où, justement, ce sujet est assez difficile pour ça.
Alors, par exemple, dans les exemples qui ont été donnés par vos élèves, il y avait minaret, burqa. Mais pris comme un ensemble, minaret et burqa, implicitement, l'élève, il me semble que c'était Zora Ghezouli qui avait cité cet exemple. C'est vous, ou Rowan, je ne sais plus laquelle des deux en avait parlé. Mais vous étiez d'accord l'une avec l'autre, d'ailleurs, pour l'une et l'autre, pour parler de cela. Minaret, burqa, est-ce qu'il ne faut pas justement, pour le coup, distinguer les deux c'est-à-dire, par exemple, considérer que on devrait autoriser les minarets, mais qu'en revanche, il y a un seuil à ne pas franchir avec, par exemple, le port de la burqa.
Alors là, on en vient justement, je pense, à une des distinctions qu'on devra faire dans le cours de la dissertation, qui est un des présupposés de cette dissertation qu'il va falloir dépasser, c'est le fait que cette dissertation présuppose que l'on puisse comprendre ou prendre en compte les cultures comme des touts et qu'on pourrait les juger globalement et dire celles-ci, elles sont bien, celles-ci, elles sont moins bien, etc. En fait, il faut aller plus loin que ça. C'est-à-dire que peut-être que ce sont des pratiques culturelles qu'il va falloir... qu'on va peut-être s'autoriser à juger. On peut prendre l'exemple de l'excision, même s'il est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et donc, plutôt que de penser des cultures comme des touts, oui, en venir à des pratiques culturelles. Et on pourrait faire justement la distinction entre l'autorisation ou le fait qu'il y ait des minarets dans nos paysages et puis la difficile question... que je serais bien loin de pouvoir trancher comme ça, qui concerne la burqa.
Alors, quel plan proposeriez-vous ? Et d'ailleurs, je vous pose la même question qu'à votre prédécesseur hier. Hein. Y a-t-il, Pierre Vignan, est-ce qu'il faut annoncer le plan dans l'introduction ? Ou est-ce qu'il suffit de formuler une question qui servira de fil conducteur ?
En ce qui me concerne, il n'y a pas de dogme. Mais le passage obligé, c'est la problématisation. Mmh. Et ce que souvent je demande à mes élèves, en fait, même dans un premier temps, c'est de ne pas annoncer de plan pour qu'ils s'obligent à faire un problème, parce que très souvent, on remplace le problème par le plan. Et donc, ça nuit on plaque un plan un petit peu bateau, thèse, antithèse, synthèse, pour ne pas dire autre chose. Et,
Sartre hein, disait thèse, antithèse, foutaise.
Voilà, hein, c'est voilà, ce que je voulais éviter de dire, bah, merci.
on est là pour ça.
Voilà, allez-y, donc plutôt que de plaquer un plan, finalement, de véritablement chercher à le problématiser et de dynamiser la réflexion et voire de dynamiter le sujet, quoi. Aller le chercher, aller le... l'affronter vraiment, quoi.
Dynamiser, dynamiter, hein, voilà. Jean-Pierre Ramizino, et on va dramatiser cette question-là. comment vous formulez cette question en quelques mots, donc, pour que tout le monde l'ait en tête?
Alors, je pense que ce qui est central dans cette question, c'est la réflexion autour des valeurs universelles. Est-ce qu'on peut... est-ce qu'on doit en faire l'économie? Est-ce qu'on peut en faire l'économie? Et si on ne peut pas en faire l'économie, eh bien, comment les penser en évitant justement à la fois l'universalisme ethnocentrique qui n'affirme que ses propres valeurs et l'universalisme subreptiste du relativisme qui dit que tout se vaut, quoi.
Toi, monsieur James Brown, s'il vous plaît, dites-moi comment vous faites, monsieur Charles, monsieur King, monsieur Brown. Moi, je fais de mon mieux pour chanter comme vous, mais je ne peux pas grand-chose, je ne peux rien du tout. Je crois que c'est la couleur de ma peau qui ne va pas.
Jean-Pierre Dramizino est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance, dans une semaine que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent au bac philo. Jean-Pierre Dramizino, qui enseigne en terminale L au lycée Robert Doisneau. Jean-Pierre Dramizino, flanqué de Rowan Chibani et Zora Ghezouli, qui viennent répondre à la question de savoir si toutes les cultures se valent.
Je me sens très souvent très très embarrassé par la couleur de ma peau qui me démoralise un petit peu.
Alors voilà, Nino Ferrer voudrait être un noir, n'est-ce pas ? Je voudrais être un noir. On pourrait d'ailleurs se demander ce que vaudrait une chanson d'un noir qui chanterait « Je voudrais être blanc ». Ce serait une autre histoire, ça poserait peut-être d'ailleurs plus de problèmes. Peut-être aura-t-on l'occasion d'en parler au cours de cette dissertation qu'on va faire ensemble. Donc la problématique, c'est d'échapper à cette alternative hein, entre un universel abstrait et ethnocentré, paradoxalement, et un relativisme absolu qui tolère également l'intolérable. Quelle première partie, à quelle hypothèse allez-vous donner sa chance au début de cette dissertation, Jean-Pierre Dramizino?
Alors, en ce qui concerne le plan, en fait, je voudrais en proposer deux. Un que je ne ferai pas, mais c'est juste pour indiquer en fait, aux élèves qui vont nous écouter que, de manière assez simple, ils pourraient parfaitement se proposer de faire un plan où, dans un premier temps, on pourrait critiquer l'ethnocentrisme. Dans un deuxième temps, critiquer le relativisme pour ensuite essayer justement de penser des valeurs universelles. Mais je vais essayer de compliquer le plan pour que finalement, ça leur serve aussi à approfondir un petit peu cette question. Alors, en fait, dans un premier temps, je me proposerais de renvoyer dos à dos l'ethnocentrisme et le relativisme. Ce que finalement, je laissais entendre déjà dans l'introduction. Ici, vraiment le dépasser et montrer que les deux sont des écueils, en fait. Sont des risques qu'il faudrait éviter.
Quels exemples allez-vous prendre à l'appui de ce renvoi dos à dos?
Alors, dans un premier temps, je serais parti avec ce que nous faisons souvent en cours, qui est la caractérisation de l'étranger par les Grecs comme barbare, puisque c'est relativement parlant, donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. On pourrait ensuite traiter d'un ethnocentrisme évolutionniste à la Spencer, par exemple, où finalement on voit l'humanité comme une sorte d'une. On affirme l'unité d'une humanité qui évoluerait, qui irait vers un mieux, et en considérant que les sociétés qui ne sont pas à notre niveau, entre guillemets, sont nécessairement inférieures puisqu'elles doivent nous rejoindre. Nous sommes, nous, le phare de l'humanité, en quelque sorte. Je dis nous, puisque ça a été souvent le cas de la pensée occidentale, des occidentaux, de se voir comme ça. Et de se dire les civilisés.
Et les civilisés. Alors, c'est également le propre, par exemple, de la pensée des Lumières, enfin, d'une certaine pensée des Lumières, parce que la pensée des Lumières ou la philosophie des Lumières est très plurielle. Mais par exemple, un philosophe majeur, enfin, un des penseurs cardinaux de la philosophie des Lumières, Condorcet, par exemple. Condorcet explique que le rôle de l'Occident et des Lumières telles que l'Occident leur a donné le jour, c'est d'aller, dit-il explicitement, civiliser les nations barbares. Si l'ancien président américain, par exemple, avait dit la moitié de cela, le monde entier, justement, aurait hurlé en criant au fascisme. Or, Condorcet a plutôt bonne presse, on le lit, il est dans les bibliothèques, on le considère à juste titre, d'ailleurs, comme un penseur important des Lumières. Comment expliquer ce passage, finalement, ce lieu commun qui voudrait que Condorcet soit un grand penseur et qu'en même temps, ce qu'il dit soit aujourd'hui inaudible?
Alors là, je pense que Condorcet, en même temps, il n'est pas en but à des sociétés aussi plurielles que la nôtre et aussi plurielles que les nôtres. Et nous avons désormais à penser la différence et à penser le respect des différences. Alors qu'on peut supposer que, justement, Condorcet n'a pas à penser cela et à considérer que, finalement, la société occidentale a des lumières à apporter aux autres. Mais ce n'est pas pour dire qu'il faudrait balayer Condorcet et considérer que ce qu'il dit est nul et non avenu, est complètement obsolète. Après, pourquoi ne pas amender, retravailler cet universalisme, notamment, je pense à ce que Todorov appelle l'humanisme bien tempéré, l'universalisme d'horizon qu'il se propose, où finalement, l'universel reste un horizon, mais je dois le construire avec les autres. Et donc, peut-être que finalement, la lumière ne viendrait pas uniquement de l'Occident, mais d'un dialogue qui serait possible avec les autres cultures.
Il y a, Jean-Pierre Dramizino, un penseur à mi-chemin de la philosophie, de l'ethnologie, de l'anthropologie, qui peut-être concentre toutes ces difficultés dans des textes qui sont eux-mêmes d'ailleurs propices à certaines difficultés ou interrogations, c'est Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, qui dans Race et Histoire, puis dans Race et Culture, d'ailleurs, pose constamment et repose le problème de l'ethnocentrisme. Il dit notamment, dans Race et Histoire, donc on est au début des années 50, il dit ceci: l'attitude de pensée au nom de laquelle on rejette les sauvages, entre guillemets, ou tous ceux qu'on choisit de considérer comme tels hors de l'humanité, est justement l'attitude la plus marquante et la plus distinctive de ces sauvages mêmes. Ce qui est une phrase où vraiment tous les problèmes sont concentrés à la fois. C'est le sentiment d'être exceptionnel qui est le propre du sauvage et en même temps le fait qu'on ne puisse pas désigner l'autre comme sauvage mais qu'on puisse se regarder soi-même comme un sauvage qui se représente des sauvages.
Oui, c'est notamment aussi dans le regard éloigné, je crois, où il montre que justement ces, on va réutiliser le terme, ces sauvages justement vont pouvoir qualifier les autres ethnies d'œufs de poux ou en tout cas on va rejeter l'autre hors de l'humanité en fait. Et finalement on retrouve bien la même chose que dans la distinction entre les Grecs et les barbares, puisqu'on sait que le mot barbare viendrait d'une onomatopée qui renverrait au chant des oiseaux, ou en tout cas une sorte de parole inarticulée qui ferait que les barbares n'accèdent pas au langage et donc ne seraient pas pleinement humains.
Ne pas pleinement humains au sens où le langage serait le propre de l'homme. Voilà. Il y a un fait historique. Alors, en général, la philosophie est intemporel au sens où les problèmes qu'on posait il y a 2500 ans se posent toujours aujourd'hui et qu'en un sens on peut considérer que la philosophie ne fait pas de progrès. Mais en même temps, il y a des faits historiques qui peuvent aujourd'hui éclairer un tel sujet et qu'on n'avait pas à notre disposition il y a 2000 ans. Le fait notamment de la décolonisation, Jean-Pierre Dramizino. D'abord le fait de la colonisation, puis le fait de la décolonisation. Est-ce que ça a permis de penser ?
Alors, la décolonisation est très intéressante et je pense que d'ailleurs, ce cas-là est tout à fait intéressant puisqu'il pourrait parfaitement réutiliser, donc dans le cadre d'une dissertation de philosophie, ce qu'ils ont pu voir en histoire. Et là, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là pour leur montrer que l'ensemble des matières qu'ils pratiquent au lycée peuvent être convoquées dans le cadre de la dissertation. Et ce qui est intéressant avec la décolonisation, alors ça, j'en parlerai, je pense, plus tard dans le cadre de la dissertation, c'est cette idée que finalement la décolonisation s'est faite au nom des valeurs qui étaient prônées par l'Occident lui-même. On pourrait dire que finalement c'est un des effets de l'affirmation des droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme, justement, ne sont pas réservés qu'aux Occidentaux.
Et Ho Chi Minh brandissait d'ailleurs la Révolution française.
Voilà, notamment. Donc la décolonisation est un cas vraiment très intéressant, où finalement on voit des valeurs occidentales qui n'étaient pas appliquées finalement par les Occidentaux et qui... où finalement on voit les Occidentaux obligés finalement d'appliquer leurs propres valeurs. On leur demande de le faire, en fait.
Donc ils se font appliquer à eux-mêmes leurs propres valeurs. Comment concluriez-vous la première partie de manière à justifier que les parties s'enchaînent et qu'on passe à une deuxième partie qui infléchisse le propos ?
Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'opposerais donc ethnocentrisme et ensuite le relativisme en considérant, on pourrait affirmer finalement un relativisme de bon aloi, bien plus attirant, entre guillemets, que l'ethnocentrisme. Et pour passer à la partie suivante, j'essaierai de montrer que justement, les deux, que ce soit l'ethnocentrisme ou le relativisme, affirment en fait un certain universalisme. Mais du fait de l'ethnocentrisme, c'est un universalisme auto-centré qui s'impose aux autres et qui nie les différences, et voire même qui rejette l'autre dans l'inhumanité. Et en ce qui concerne le relativisme, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un universalisme subreptice où finalement je considère que le tout se vaut est universel. Et donc il y a bien la nécessité de penser l'universel. Et donc essayons de le penser, mais de manière, disons, plus positive, non pas de manière imposée ou subreptice comme nous venons de le voir.
Adèle.
Oui, est-ce que l'une et l'autre, donc Rohan Chibani et Zohra Ghezouli, alors je ne sais pas comment vous avez procédé lors de la rédaction de votre dissertation, mais est-ce que cette distinction, enfin plutôt le fait de mettre en lumière les risques d'un côté du relativisme et de l'autre de l'ethnocentrisme, comment est-ce que vous dépasseriez ce conflit-là ? Comment est-ce que vous commenceriez votre deuxième partie ?
Ben, en essayant de réfléchir, comme il l'a dit, sur est-ce qu'il existe un point de vue universel, alors, en fait ? Est-ce qu'on peut, en dépassant le relativisme, s'élever à l'universel pour essayer de... Je sais pas comment dire, mais essayer de ne pas juger, enfin, de ne pas essayer de mettre les mêmes cultures au même niveau, quoi.
Et donc, est-ce qu'il y a un auteur particulier, un philosophe ou une référence à laquelle vous vous référeriez pour illustrer ce point-là ? Je sais que vous avez étudié Claude Lévi-Strauss, notamment. Est-ce que là, ça pourrait vous être utile ?
Ça aurait été plus utile dans la première partie, en fait, pour montrer comme quoi le relativisme, c'est bien, mais d'un côté, non. Parce que lui, dans Lévi-Strauss, il montre qu'il met sur le même plan l'anthropophagie, je crois, et le fait qu'on met les hommes en prison. Et donc, il montre bien qu'en fait, chacun est le barbare de l'autre, quoi. Et qu'on n'a pas vraiment... On n'a pas vraiment de jugement à avoir sur une autre culture.
Zohra Ghezouli ?
Enfin, oui, moi, je pense que le problème qu'il a posé en première partie, c'est un peu celui qu'on a tout lycéen, quoi. Parce qu'on n'arrive pas à dépasser... d'un premier abord, on veut aller vers le relativisme, alors que c'est quelque chose qui peut paraître quand même dépassé. Parce que vaudrait mieux tendre à l'universel et pouvoir justement s'élever... au-dessus de ces deux points de vue-là qu'il a mis en première partie pour pouvoir mieux comprendre les cultures et justement peut-être mieux les mettre en parallèle et mieux les juger.
Alors, il y a aussi chez Lévi-Strauss, peut-être Jean-Pierre Dramizino, une tension interne dans Race et culture. Donc 20 ans après Race et histoire, Lévi-Strauss explique qu'il n'a pas d'argument valable pour lutter contre le racisme. Qu'il n'arrive pas à lutter contre le racisme finalement, puisque étant au fond un fait de culture, il ne sait pas comment faire pour lutter contre une culture qui elle-même serait raciste. Et l'autre élément chez Lévi-Strauss, qui est un élément problématique, c'est dans Triste Tropique, c'est les diatribes d'une violence inouïe de Lévi-Strauss contre l'islam, dans lesquelles Lévi-Strauss en vient quasiment à dire, il dit oui, je suis obligé de constater que la France est en train de devenir musulmane. Et ce qui est intéressant, c'est que une phrase qu'on pourrait retrouver dans la bouche de Jean-Marie Le Pen, par exemple. Or, Lévi-Strauss dit cela en expliquant que ce qu'il déteste dans l'islam, c'est que l'islam, c'est, dit-il, l'Occident de l'Orient.
de sorte que l'islam serait ce que l'Occident a fait de pire. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction interne, là, pour le coup, au système de Lévi-Strauss, qui en dirait long, justement, sur les difficultés du relativisme ?
Oui, mais justement, il affronte, justement, cette tension entre l'acceptation, la volonté d'accepter toutes les cultures et d'être ouvert à la différence, mais de ne pas pouvoir finalement tout tolérer et d'être parfois confronté à des choses qu'il va trouver intolérables. Bon, en ce qui le concerne, il va justement avoir des pages plutôt dures sur l'islam.
Plutôt dur, vous êtes plutôt tendre oui. avec lui. Hein. Mais allez-y, pardon.
Mais bon, voilà, c'est-à-dire que ça pose véritablement la difficulté de penser des valeurs universelles qui puissent, entre guillemets, nous mettre tous d'accord et, dans le même temps, de ne pas respecter finalement l'autre. Donc, y a une tension ici. Parce que, à l'inverse, ne pas respecter l'autre, eh bien justement, je tomberais dans l'ethnocentrisme. Il y a une page de Triste Tropique dans le chapitre 38 qui est intéressante, où justement il parle du dilemme de l'ethnographe qui, en fin de compte, va de Charib en Silla. C'est-à-dire qu'à la fois, il est porté vers les autres, et finalement, c'est en rejetant sa propre culture. Donc, il va quand même considérer qu'il y a une culture qui ne vaut pas la peine, ça serait la sienne propre. Et à l'inverse, en faisant cela, il s'interdit toute action, puisque si toutes les cultures se valent, eh bien, il n'y en a aucune que je peux changer, donc je dois tout tolérer.
Il faut surmonter donc cette alternative. On est dans la deuxième partie maintenant. Comment on fait ? Comment vous l'articulez ? Est-ce que, par exemple, vous donneriez aux élèves le conseil de donner un titre à chacune de ces parties pour avoir sous les yeux véritablement les angles de vue qu'ils se proposent d'aborder ?
Alors, ce que je peux leur dire parfois en ce qui concerne le plan et donc comment on va penser chacune de ces parties, c'est moins de donner des titres, mais que de poser la question à laquelle on va répondre. Et donc, dans un premier temps, ça concernait le dépassement de l'énocentrisme et du relativisme. Là, dans un deuxième temps, comment penser l'universel, par exemple ?
Alors, comment penser l'universel et avec qui penser l'universel ? Et peut-être à partir de quel exemple ?
Alors, Lévi-Strauss est intéressant dans un premier temps. On pourrait partir justement de ce fameux dilemme de l'ethnographe qu'il arrive à dépasser pour finalement pouvoir agir. Et il le fait par un comparatisme de toutes les sociétés qui lui permet de montrer qu'en fin de compte, il n'y en a aucune qui est supérieure à l'autre. Et que, en s'inspirant de Rousseau, il va aller chercher finalement une sorte d'idéal type, pour reprendre le mot de Weber, une sorte d'idéal type de la société et de voir finalement qu'est-ce que toute société cherche à faire. Et en cela, voir si finalement la nôtre le fait aussi et pouvoir de ce fait critiquer sa propre culture.
En somme, l'enjeu c'est de voir dans quelle mesure on peut, sans être ethnocentriste ni relativiste, formuler tout simplement des jugements de valeur qui ne relèvent pas de l'intolérance, qui ne témoignent pas d'une intolérance. Alors, vous êtes servi de Lévi-Strauss, on aurait pu servir de Rousseau, dont Lévi-Strauss est vraiment un interprète vivant, enfin, plus vivant depuis longtemps, et où on aurait pu passer par Montaigne également. Mais quand on n'a pas, en terminale, le jour du bac, à l'esprit, ces références-là, parce qu'on a mal bossé, parce qu'on n'était pas là le jour où on en a parlé, parce que c'est des textes qu'on ne connaît pas, est-ce qu'on doit désespérer de pouvoir répondre à cette question ? Évidemment, il vaut mieux les avoir, mais quand on ne les a pas, comment fait-on ? Jean-Pierre Ramizino, comment est-ce qu'on s'en sort ?
Alors, le conseil que je peux donner, c'est qu'il ne faut pas en rester, il ne faut pas rester bloqué sur les termes du sujet. C'est-à-dire qu'il faut les travailler, et notamment, on n'a pas de dictionnaire non plus. Et on a des termes à travailler. Et en fait, on a des sujets qui sont suffisamment indéterminés pour que justement nous puissions les déterminer. Donc face à un sujet, si on n'a pas de référence en tête, eh bien il faut aller chercher et travailler le sujet. Moi je dis il faut le travailler au corps, il faut lui faire rendre tout ce qu'il a dans les boyaux, et il faut le faire travailler grâce à la langue. Donc il faut travailler les termes. Donc ensuite on peut commencer à faire des distinctions. Alors bien sûr, plus on travaille, mieux on sera armé pour faire ce genre de choses. Hein. Mais il faut pas désespérer. C'est-à-dire qu'après, ce qu'on attend nous dans les dissertations, c'est notamment un travail de type conceptuel. Et là notamment, on peut passer par des distinctions conceptuelles. Donc là notamment, ici je pensais à la distinction entre culture et civilisation.
Voilà. Qui fait l'objet de la deuxième partie,
voilà,
en l'occurrence.
Qui permet notamment de travailler d'ailleurs le terme de civilisation, puisque pendant longtemps on a pu considérer que certaines cultures se voulaient la civilisation. Donc là, on retrouve bien l'ethnocentrisme dont on peut accuser l'Occident. Mais dans le même temps, ce terme de civilisation va être travaillé notamment par l'anthropologie et notamment par des gens comme Lévi-Strauss. Et dans Race et Histoire, on voit justement l'appel au terme de civilisation comme ensemble de cultures. Ce qui montre bien, d'ailleurs, ce qui ne se voit pas dans Triste Tropique, que finalement, les cultures ne doivent pas être pensées comme des tout clos sur eux-mêmes, mais en fin de compte, sont toujours en communication les unes avec les autres. Et elles vont former des groupes qu'on peut appeler des civilisations. Et donc, ça montre bien qu'on peut penser des différences culturelles qui existent, qui coexistent, ou voire même qui se dépassent et qui vont former un ensemble culturel qu'on va appeler civilisation. Et ce qui nous permettrait même d'avoir un regard qu'on pourrait considérer comme objectif sur la civilisation, non plus simplement avec un jugement de valeur subreptice, mais comme en fait une manière objective de considérer que certains rassemblements de cultures forment des ensembles extrêmement hétérogènes et qui, objectivement, sont plus complexes que des sociétés qui le seraient moins.
Dans le chapitre fameux de Montaigne sur les cannibales, on dit souvent, sans le lire, que Montaigne dit en gros que les cannibales et nous, c'est blanc bonnet blanc, et qu'au fond, il n'y a pas lieu de juger, etc. Quand on lit ce chapitre, en général, on le lit d'ailleurs bien après l'avoir cité, quand on lit pour de vrai ce chapitre, on s'aperçoit que Montaigne dit des cannibales, formule des jugements de valeur, et il dit d'une certaine manière d'ailleurs que les cannibales, c'est mieux que nous, dans la mesure où ils font rôtir quelqu'un pour le manger, alors que nous faisons rôtir quelqu'un parce qu'il n'a pas la même religion que nous. Et qu'en un sens, à tout prendre, il y a plus de sens à faire rôtir quelqu'un pour le mettre dans son assiette qu'à le faire rôtir parce qu'il n'est pas du même avis. Est-ce que Montaigne ne permet pas de penser de cette façon-là la possibilité d'un jugement de valeur qui ne reposerait sur aucune valeur absolue ?
Ah non, pas du tout. Alors là, je ne suis pas d'accord à ce niveau-là. D'ailleurs, Montaigne, je l'aurais cité et je l'aurais utilisé dans la critique du relativisme dans la première partie. Puisqu'en fait, les cannibales, c'est une sorte d'idéal du moi. C'est-à-dire que, en fait, les cannibales sont mieux que nous, mais parce qu'en fin de compte, ils sont l'image que Montaigne projette de lui-même, en fait. En tout cas, pourquoi ils sont si bien que ça, ces sauvages ? Parce qu'ils ressemblent à des Grecs. Leur poésie ressemble à celle des Grecs. Même leur langue aurait des accents grecs. Donc, en fin de compte, Montaigne, finalement, respecte beaucoup les sauvages, mais ce qu'il respecte en eux, c'est en quoi il ressemble à ce qu'il voudrait être, ou en tout cas, à ce qu'est son idéal. Donc, à ce niveau-là, je ne convoquerai pas... Alors, bien sûr, pour l'époque, c'est intéressant que quelqu'un soit capable, qu'un Européen soit capable de dire « Finalement, ce sont eux qui sont moins sauvages que nous ». Et donc, il y a un jeu sur le mot « sauvage », où finalement, c'est à la fois le sauvage comme celui qui va faire des choses cruelles, et puis le sauvage comme étant plus proche de la nature. Deuxième critique à l'égard de Montaigne. Finalement, le sauvage est mieux que moi, il est mieux que nous, les civilisés. Pourquoi ? Parce qu'il est plus proche de la nature. Finalement, on nie sa culture en considérant qu'il est plus proche de la nature. Donc oui, c'est bien sauvage. Mais en fin de compte, en disant cela, je ne l'élève pas plus que ça. Et donc, on en revient à ce mythe du bon sauvage, quoi.
Mais alors justement, est-ce que cette polysémie du mot de sauvage, qui désigne à la fois la proximité avec la nature, le sauvage qui est en communication avec la nature, dans l'idée reçue qu'on s'en fait, mais également le sauvage au sens barbare ou sauvage, comme disait l'autre, un sauvageon oui. du terme, donc le sauvage cette fois-ci au sens péjoratif du terme, non pas celui qui aurait le génie d'entendre les voix de la nature, mais celui qui aurait le malheur d'être violent, est-ce que cette polysémie du mot de sauvage ne recouvre pas justement la polysémie qu'on avait pointée au début de ce travail, Jean-Pierre Ramizino, sur le terme même de culture, qui désigne à la fois une culture particulière ou bien une civilisation ?
Ah oui, alors là, à ce niveau-là, on pourrait retravailler les termes. En ce qui concerne le terme de culture, on pourrait même considérer qu'il y a trois grands sens du terme culture. Qu'en fin de compte, on peut penser la culture... je dis moi à mes élèves au sens philosophique, c'est-à-dire la distinction entre nature et culture. Et finalement, toutes les cultures Et c'est là où, justement, j'en reviens à la critique de Montaigne, toutes les cultures pourraient être pensées comme faisant échapper l'homme à la nature. Bon, c'est un thème contesté en ce moment, mais en tout cas, on peut le convoquer dans le cadre d'une dissertation de philosophie au baccalauréat. Et donc, la culture comme ce qui fait que l'homme n'est plus complètement dans la nature, la culture au sens ethnographique ou anthropologique, qui justement réfère, mais de manière particulière, à cette abstraction qu'est la culture dans le sens philosophique, et la culture au sens de l'ouverture à l'universel.
Cultiver son jardin.
Voilà, se cultiver, ou on va dire qu'on va se cultiver. Et là, je réutiliserai d'ailleurs, pour faire la distinction, les termes allemands, Kultur ou Bildung.
Voilà, c'est-à-dire que l'allemand a la ressource, effectivement, oui, de deux mots pour désigner un mot qui, chez nous, est finalement un mot valise et qui, dont les différents sens prêtent à confusion. Comment iriez-vous au terme de cette deuxième partie pour justifier qu'on l'enchaîne sur une troisième?
Alors, en fait...
Si troisième il faut, d'ailleurs.
Ben je pense que c'est bien, trois parties, mais... parce que c'est... Bien sûr, on peut souvent... gloser sur la question des trois parties ou pas, pourquoi pas en faire 12 ou que deux. Les élèves sont souvent tentés d'en faire que deux, mais je pense que la dissertation de philosophie, c'est un exercice scolaire. Donc, il faut entrer dans un certain nombre de cadres. C'est vrai que c'est un moule qui peut sembler un petit peu désuet ou un cadre trop rigide, mais je pense qu'il est formateur. Après, si on veut en faire 12, pourquoi pas, mais s'astreindre à trois parties, je pense que c'est quand même pas inintéressant.
Et ne pas se prendre pour un artiste le jour du bac aussi, c'est important, parce que si on le fait, on peut avoir de mauvaises surprises.
Tout dépend comment c'est fait.
Non, mais bien sûr, mais c'est un risque quand même qu'il ne faut pas conseiller aux élèves, c'est-à-dire que des élèves qui s'emballent en 4 heures, ça peut produire des catastrophes.
Mais on en revient à la question de l'inspiration, c'est-à-dire que si le sujet nous inspire, on risque de un petit peu
on
trop
se lâcher. On est en danger, oui, c'est ça.
Tout à fait. Et il vaut mieux prendre d'ailleurs un sujet pour lequel on pense ne pas avoir trop de choses à dire au début, on sera obligé de chercher.
Alors, troisième partie, comment on y vient, voilà.
L'idée, c'est que dans la deuxième partie, je voulais travailler le terme de civilisation pour montrer qu'on pouvait avoir un regard objectif qui permette à la limite d'évaluer, mais avec des critères qui n'étaient pas des critères des jugements de valeur, qui cherchait une certaine objectivité pour juger de la qualification de civilisation. Et puis, pour en venir toujours dans la troisième partie, à cette idée selon laquelle est-ce que finalement... Donc, il y aurait l'idée d'un possible dépassement des différences culturelles. Est-ce que, justement, les droits de l'homme ne sont pas une valeur qui pourrait être affirmée positivement comme une valeur universelle, à partir de laquelle on pourrait aller jusqu'à penser, même si Lévi-Strauss est plutôt réticent à cette idée-là, mais l'idée d'une civilisation mondiale. Parce que, de toute façon, est-ce que nous ne sommes pas face à quelque chose, une sorte de rouleau compresseur, qui finalement est quasiment inéluctable et... dont l'avancée est inéluctable. Alors comment faire pour que justement ce rouleau compresseur ne soit pas simplement une morne uniformisation, une morne standardisation autour de la logique du marché, de la consommation, etc. D'ailleurs, logique qui amène des crispations identitaires, des réactions, et donc qui est finalement délétère. Et donc comment arriver à concilier à la fois l'universel et le particulier? Et justement, pour en venir à la troisième partie, c'est-à-dire... chercher justement à articuler à la fois cette obligation, je dirais, de penser l'universel, tout en respectant les particularités.
Alors, on y vient justement, hein, mais est-ce que, Jean-Pierre Dramizino, on ne peut pas émettre l'hypothèse, pas franchement consensuelle d'ailleurs, mais après tout, pourquoi pas, que cette une pensée qui... Enfin, un fait historique qui pourrait concilier l'universel et les particularismes serait tout simplement la mondialisation, comme on dit ou comme on l'a décrit. Mondialisation au sens, non pas seulement marchand du terme, mais au sens où elle abolit les frontières tout en les ressuscitant, tout en ressuscitant le désir. Et qu'au fond, il y aurait derrière cette tension entre l'uniformisation de l'homme et les crispations identitaires, la possibilité, peut-être irénique, peut-être magnifiée, peut-être rêvée, peut-être utopique, d'un universel véritable qui serait en même temps un respect des différentes particularités, des couleurs qui le composent.
Oui, mais alors, à ce niveau-là, comment vous allez penser justement la coexistence de cultures qui parfois peuvent être contradictoires, dont les valeurs peuvent être contradictoires, ou, comme je le disais tout à l'heure, certaines pratiques qui peuvent être considérées comme intolérables. Comment faire ? C'est bien le problème auquel on se confronte dans des sociétés pluriculturelles. Et justement, l'intérêt de la question, c'est de penser, de nous obliger à penser ça, parce que finalement, entre une accusation à l'égard de l'impérialisme et puis une sorte d'irénisme, on dirait tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tenons-nous la main et on fera un monde merveilleux. Là, on est dans le monde des bisounours, excusez-moi. Et donc, il va bien falloir à un moment...
Le truc, c'est que le monde des bisounours, c'est beaucoup plus dangereux que le premier monde, en l'occurrence, puisque le monde des bisounours, c'est un monde dans lequel toute personne qui ne joue pas le jeu des bisounours, c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine.
Il va falloir que je révise mes classiques, alors. Mais bon, voilà, nous sommes vraiment face à un vrai problème. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème inventé, un problème uniquement théorique. Il y a véritablement un enjeu pratique dans ce sujet et qui nous oblige finalement à penser à la fois, dans le même temps, le respect de la différence, l'accueil, voire même de la différence, c'est un sujet au goût du jour, et le nécessaire partage de valeurs qui nous permet de vivre avec l'autre.
Est-ce que le mot clé qu'on n'a pas encore donné jusqu'ici, dans cette dissertation, Jean-Pierre Dramézino, ça n'est pas tout simplement le mot de laïcité ?
Alors, ce que je voulais faire dans la troisième partie, c'était justement de me poser la question des solutions possibles quant à l'articulation à la fois de l'universel et du particulier. Je me serais proposé de le faire à l'échelle d'une société, car il semble difficile de penser, si ce n'est de manière un peu irénique peut-être, la possibilité même d'une coexistence de toutes les cultures sur le plan mondial. En tout cas, l'horizon est plutôt lointain et on pourrait se proposer
Donc
de
restons
dire...
dans l'espace républicain, voilà, éventuellement.
Restons dans l'espace d'une société, et je ferai le mouvement inverse de Platon dans la République, hein, plutôt que de grossir pour voir. Au contraire, je vais aller chercher moins grand et à l'échelle d'une société. Et là, on pourrait justement confronter deux modèles qui sont intéressants. Ce serait le modèle multiculturalisme, du multiculturalisme à la Taylor, ou alors la solution républicaine de la laïcité.
Alors Taylor, c'est Charles Taylor. Allez-y.
Alors, dans un premier temps, on pourrait justement considérer que face au rouleau compresseur de l'universalisme, et notamment, il y a des critiques même des droits de l'homme à ce niveau-là, que justement face à cela, il faut en revenir à une reconnaissance des différences. Et donc là, c'est ce que Taylor appelle justement à la politique de la reconnaissance, considérant qu'en fait, l'identité est liée au fait que je suis porteur d'une culture et que mon identité, c'est pas une abstraction. Et donc, il faut lutter contre l'individu abstrait, universel de la philosophie classique, de la philosophie moderne.
Oui, c'est l'idée des contre-révolutionnaires. On n'a jamais croisé l'homme en général. Voilà. On croise des Anglais, des Français, voilà, des Italiens, mais on ne croise pas l'homme.
Voilà, c'est Joseph de Maistre.
C'est Joseph
donc,
de Maistre, absolument.
Donc, c'est intéressant d'accepter cette idée-là. C'est-à-dire que les droits de l'homme, quel est l'homme, les droits de l'homme ? Eh bien, justement, cette abstraction n'a pas un grand intérêt si on en reste à cette abstraction. Bon, on en reste à des idées relativement caricaturales. Dans le cas d'une dissertation en 4 heures, de toute façon, difficile d'aller plus loin. Mais bon, le multiculturalisme peut être une solution possible. L'idée étant qu'il faut reconnaître l'identité culturelle de ceux qui, justement, coexistent avec moi dans la même société que moi.
Et Jean-Pierre Dramézino, est-ce que cette reconnaissance de l'identité culturelle irait jusqu'à la reconnaissance de l'excision, par exemple, comme le propre d'une identité culturelle ? Ou, sans aller jusqu'à l'excision, de la burqa ? Jusqu'où va-t-on trop loin dans la reconnaissance de l'identité culturelle ?
C'est ça, c'est justement là le problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des revendications culturelles qui peuvent sembler choquantes ou atteindre au respect de l'individu. Mais là les problèmes sont... Il y a plusieurs types de problèmes. Parce que vous pouvez avoir des problèmes où ce sont des revendications culturelles, je dirais de culture à culture, qui vont s'opposer. Notamment, il y a des tensions de ce type-là au niveau du Québec, qui ont amené notamment Taylor avec Bouchard à essayer de dépasser ces questions-là. Et puis, vous pouvez aussi avoir des revendications culturelles qui iraient à l'encontre de normes juridiques, de normes, alors je n'irai pas jusqu'à morales, mais en tout cas, oui, de normes juridiques du type des droits de l'homme, qui posent justement la question de l'acceptation de ces pratiques-là.
Alors, dans ces conditions, si on objecte au multiculturalisme la présence donc de ce qui manifestement contrevient, alors sans le dire à la morale, disons contrevient tout simplement au droit. Mmh. On ne s'en prend pas à l'intégrité physique de quelqu'un. L'ablation du clitoris et des grandes lèvres qui est pratiquée sur aujourd'hui 130 millions de femmes dans le monde n'est pas, peu importe le respect des cultures en l'occurrence, il y a là quelque chose d'inacceptable. Comment concilier donc le respect des cultures et la conscience de cet inacceptable? C'est peut-être là-dessus qu'il faut terminer la dissertation, j'imagine.
En tout cas, je me garderai bien de clore la discussion et de dire que finalement, voilà, j'ai la solution à tous les problèmes. Mais en tout cas, de montrer qu'on est capable de penser ce problème-là et qu'il est loin d'être évident. Et de montrer qu'en fin de compte, en tout cas, j'en viendrai à l'idée qu'il faut faire un pari, et un pari vers l'universel. C'est-à-dire que de toute façon, je dirais, nous sommes condamnés à l'universel, nous sommes condamnés à le penser. Maintenant, est-ce que ça doit se faire au nom d'un rouleau compresseur? Non. Est-ce que ça doit se faire au mépris des différences? Non. Maintenant, c'est pour ça que la laïcité est intéressante, parce qu'elle permet de penser un espace commun où, justement, la distinction entre l'espace privé et l'espace public permet justement à chacun de vivre sa différence culturelle, mais en se pensant comme membre d'un espace public, d'un espace politique auquel il participe pleinement et auquel il doit participer. Notamment, on pourrait penser cela comme possible au sein d'un même individu quand on pourrait se référer à la distinction que fait Kant dans « Qu'est-ce que les Lumières ?» entre l'usage privé de la raison et l'usage public de la raison. L'usage privé, c'est quand je fais partie de la machine, je suis membre du corps social et donc je dois faire ce que je dois faire en tant que membre du corps social. L'exemple du citoyen qui paye ses impôts, du soldat ou du prêtre. Mais en même temps, je dois être capable de penser en savant, c'est-à-dire de penser l'universel. Et donc, à ce niveau-là, ce serait quelque chose qui renverrait justement, encore une fois, la distinction entre culture et bildung. C'est-à-dire, je dois être capable de me cultiver et de dépasser mes simples particularités culturelles, en fait. Et la critique qu'on pourrait faire à l'égard du multiculturalisme, c'est qu'en fait, ils font la synthèse entre culture et bildung. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas cette distinction qui est faite.
Dans le mouvement, quand le mouvement des indigènes de la République s'est créé, il s'est créé autour d'une pétition qui identifiait les lois sur le port des signes religieux, notamment à des lois éventuellement islamophobes, éventuellement, mais surtout des lois en elles-mêmes colonisatrices. Qu'au fond, s'en prendre par exemple au port du voile, c'était prolonger le projet d'oppression coloniale. Que répondre dans ces conditions à ceux qui, au nom de la tolérance, font valoir le droit, par exemple, du port du voile, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que la burqa, en l'occurrence.
Je pense que là, on est vraiment face à un problème qui se pose à nos sociétés actuellement, qui est de repenser ce que c'est que le lien social. Qu'est-ce que c'est que faire société? Et qu'est-ce que faire société avec des sociétés pluriculturelles? Et de ce fait, on peut comprendre que, justement, certains membres de notre société se sentent agressés parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas reconnus dans leurs différences. Et moi, je comprends quand mes élèves vont réagir parfois vertement à tous ces débats. Je veux bien l'entendre. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est que vivre ensemble et comment le faire? Et l'idée, ce n'est pas d'imposer... En fait, c'est là-dessus que j'aimerais terminer. C'est finalement de montrer qu'il faut faire un pari vers l'avenir et un pari vers l'universel. Mais je répéterai ce que je disais tout à l'heure avec Todorov. Un universel qui n'est qu'un horizon. C'est un idéal régulateur. C'est quelque chose qu'on va chercher à viser grâce à la capacité au dialogue. Mais bien sûr qu'il y a un pari, puisque pour dialoguer, il faut que j'accepte avec l'autre les contraintes du dialogue.
En somme, il faut bien s'entendre pour avoir les moyens de ne pas être d'accord. Jean-Pierre Dramidino, on va juste terminer cette émission en demandant peut-être avec vous, Adèle,
oui,
leur avis aux élèves.
Zora Ghezouli, par exemple, est-ce que vous rejoignez votre professeur dans sa conclusion ou est-ce que vous auriez une idée différente? Est-ce que vous concluriez différemment avec un autre exemple, soit une autre idée?
Oui, je suis assez d'accord avec lui parce que... Dans nos sociétés, certaines cultures et certaines pratiques culturelles, certaines religions surtout, je pense, se sentent assez oppressées par tout ce qui est loi, etc. Mais est-ce que ces lois-là, elles ne sont pas pensées par justement les droits de l'homme et la laïcité? Et est-ce qu'on peut ne pas dépasser tout cela et penser que sa différence, elle peut être rejetée au nom d'une laïcité? Et je ne sais pas si... C'est possible, voilà.
Rouhan Chibani.
Bah moi, pareil, à partir des droits de l'homme, en fait, comment on accepte l'individu, mais qu'on n'accepte pas en fait tout le temps les pratiques culturelles qui vont avec. On accepte un individu, on lui donne des libertés, mais dans sa culture, on le restreint, quoi. Mais c'est un ensemble, en fait.
Est-ce qu'il y a une chose, une idée ou un exemple qui n'aurait pas été abordé, évoqué pendant le développement que vous aimeriez citer?
Non, moi, ça aurait été c'était la burqa, pareil. Mm-hmm.
Et la burqa, pour dire quoi?
Pour montrer, déjà, je ne vois pas, en fait, moi, pourquoi. En fait, c'est un pays laïque, la France, et qui donne des droits, des libertés, et dont la liberté de culte. Et en fait, moi, je pense personnellement que supprimer le port de la burqa, c'est en fait enlever un petit peu de liberté aux gens.
Enlever la burqa, c'est enlever de la liberté.
Ouais.
Parce que, dans les débats qu'on entend actuellement, la burqa, c'est quelque chose qui est imposé, etc. Mais, ce qu'on dit en ce moment, c'est plutôt quelque chose d'assez politique, etc. Juste avant des élections et tout ce qui va avec. Et je pense que plus de la moitié des femmes qui portent la burqa, c'est un choix personnel. Et il ne leur est pas imposé, quoi, le port de la burqa.
Pardonnez-moi juste une question. Est-ce qu'il ne suffit pas qu'une seule d'entre elles n'ait pas envie de la porter et qu'on la contraigne à le faire pour justifier justement qu'on l'interdise?
Oui, mais et les autres, les 70% ou les 80% qui veulent porter la burqa, est-ce que ça va dans les deux sens, quoi? On ne peut pas astreindre un groupe de personnes parce qu'une seule personne ne veut pas la porter.
Malheureusement, on arrive au terme de l'émission. Je dis malheureusement car il y aurait beaucoup à dire sur ce que vous-même venez de dire. On est là au début d'une conversation, mais l'horloge est impitoyable. Il faut s'en tenir là. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Et voilà, un Anglais à New York, mélange d'un choc des cultures, conflit de civilisation, là aussi, certainement, merci à tous. Je rappelle, Jean-Pierre Dramidino, que vous enseignez en terminale au lycée Robert Doisneau de Vaux-en-Velin, où nous nous trouvons aujourd'hui. Lycée dont je remercie d'ailleurs le proviseur, Monsieur Bernard Rosier, pour son accueil chaleureux, et tous les élèves qui ont assisté à cette épreuve, bravo à eux. On se retrouve demain, de 10h à 11h, comme tous les jours, du lundi au vendredi, pour la première des deux semaines que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent au bac philo, en compagnie de Patricia Lorca, du lycée Saint-Just de Lyon, qui réfléchira pour vous sur la question de savoir s'il y a quelque chose que le langage ne puisse dire. Et on vous donne rendez-vous aussi naturellement sur Internet à toute heure du jour et de la nuit où vous attendent bibliographie, téléchargement, ainsi que le plan détaillé de nos professeurs de la semaine, dont le vôtre, donc Jean-Pierre Dramidino. 10h59 sur France Culture, dans un instant, question d'époque.